Aujourd'hui, nous allons étudier le dernier chapitre de Néhémie, chapitre 13. Donc, on va débuter l'année par la fin de Néhémie. Ce message est très approprié pour nous. On commence cette nouvelle année 2022 avec une étude de la parole en ce qui concerne justement le ministère de Néhémie, ce serviteur de Dieu. Nous avons étudié la semaine passée le chapitre 12 concernant la dédicace de la muraille, un événement joyeux pour le temple, pour le peuple, pardon. Et nous lisons dans les derniers versets le sujet de cette joie. Donc on voit dans le verset 43 à 45 du chapitre 12 la joie que le peuple exprime à cause de cette dédicace des murailles de Jérusalem. Donc le texte dit de cette façon, les gens offrirent ce jour-là de nouveaux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances. Il dit, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient des magasins pour les prélèvements, les prémices et les dîmes, et on les chargea de recueillir du territoire des villes les parts assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service de purification, ainsi que les chantres et les portiers selon l'ordre de David et de son fils Salomon. Donc, c'est de cette façon un peu qui finit le chapitre 12, dans la joie. Et suite à cela, Néhémie est retourné, comme on le voit dans le chapitre 6 ou 3, il me semble, auprès de l'empereur. Il retourne en Perse, après avoir été nommé comme gouverneur pendant 12 ans. Donc, à peu près les années 445 à 433. Donc, on voit qu'après tous ces événements-là, Néhémie retourne en Babylone et puis il s'absente pour une période. Quelques temps plus tard, il obtient la permission, comme on va le voir au début de ce chapitre 13, de retourner à Jérusalem. Donc, durant cette absence de plusieurs années, on ne sait pas vraiment combien d'années il s'est absenté, peut-être un, deux ans, peut-être un an, et on voit que l'état spirituel du peuple juif est considérablement est dégradé. Donc, lorsqu'il revient à Jérusalem, une tâche ardue l'attend à Néhémie. C'est ce qui nous raconte le chapitre 13 que nous étudions aujourd'hui. Il semble avoir un recul. Ils finissent, on est dans la joie, et après on recule, parce que vous allez voir que ce chapitre 13, il parle de plusieurs choses, de plusieurs réformes même. Et donc, finir le livre avec le chapitre 12, et dans la joie aurait été peut-être une bonne conclusion pour plusieurs commentateurs, pour plusieurs commentaires bibliques aussi. Et il parle que peut-être on aurait pu finir le livre de Néhémie dans le chapitre 12. Et c'est parce que, justement, le chapitre 13 nous parle de certaines réformes que Néhémie met en place à cause de plusieurs irrégularités en ce qui concerne le temple, en ce qui concerne aussi l'obéissance de sa parole, de la parole de Dieu. Il découvre que les intérêts commerciaux ont remplacé le respect du sabbat. Et les arrangements avec les païens aussi, des alentours, ont remplacé aussi la fidélité à l'alliance, et qu'une partie du clergé, c'est-à-dire les sacrificateurs, ont succombé à la cupidité. Et il y a moins de sacrificateurs aussi, et leur rôle a été restreint. Et donc, il fait face, Néhémie, à une tâche plus difficile encore sur certains aspects que celle de reconstruire la muraille. Donc, on connaît cette époque-là comme un deuxième mandat de Néhémie comme gouverneur. Donc, il se trouve avec plusieurs choses qu'il doit corriger. Donc, ce chapitre est divisé en trois sections clairement identifiées. Donc, chaque section se termine par la prière, comme on va le voir, par une prière de Néhémie. « Souviens-toi de moi Oh mon Dieu, donc ou des phrases semblables dans les trois sections, le verset 14, le verset 22, le verset 31 aussi. Donc chaque section aussi nous présente aussi comment le peuple brise son engagement en ce qui concerne l'obéissance de la loi mentionnée dans le chapitre 10. Chaque section aussi décrit des mesures prises par Néhémie ou des réformes concernant le manquement du peuple. Donc, à titre de rappel, je vous invite à lire le chapitre 10, dans le chapitre 10, quand on voit que le peuple, après avoir confessé leurs péchés, il s'engage à observer la loi. Et nous voyons que rapidement, malheureusement, il tombe encore dans des péchés, dans des négligences en ce qui concerne aussi le temple qu'on va le voir. Mais avant d'aller à notre étude du chapitre 13, je vous invite à suivre avec moi le chapitre 10, et peut-être du verset 29 à 34. Donc, chapitre 10, je vais aller au verset 1, il dit « À cause de tout cela, donc et à cause de tout ce qu'il avait fait, il s'était consacré à Dieu, il avait demandé pardon, le peuple, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit sur les documents, scellés, se trouvant les noms de nos chefs, de nos lévites et de nos sacrificateurs. Et sur le document scellé se trouvait Néhémie le gouverneur, et ça commence une longue liste jusqu'au verset 29. Il dit, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi des dieux, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères, le plus considérable d'entre eux. Ils promettent avec serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. Nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. C'est ce qu'ils sont en train de promettre devant Dieu. De rien acheter le jour de sabbat et le jour de fête des gens du pays qui apportent le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques à vendre et de faire relâche la septième année et en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers des siècles par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les rangées de pain, pour les offrandes perpétuelles, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités, pour les choses consacrées, pour les sacrifices, pour le péché destiné à l'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui s'est fait dans la maison de notre Dieu. Donc, vous voyez cet engagement du chapitre 10, et nous allons voir comment malheureusement il manque à le peuple à cet engagement dans un laps court quand même de temps, même pas peut-être 2 ans. Et donc lisons la première section, comme j'avais dit, c'est trois sections de ce chapitre 13. Donc là maintenant je vous invite vraiment à lire la première section du chapitre 13. Donc on va lire progressivement du chapitre 13, versets 1 à 14, pour commencer le verset 1 à 14. J'espère que vous avez votre Bible à côté de vous, en face de vous, pour suivre la lecture, chapitre 13, versets 1 à 14, dans cette première section. Dans ces temps, on lut en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'Assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils l'avaient soudoyé contre Balaam pour qu'il le maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut attendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui, c'est-à-dire pour Tobia, une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres, les portiers et les prélèvements pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu. car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartiennent à Tobia. J'ai dit de purifier les chambres et j'y replacer les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis chacun dans son champ. Je fis des reproches au magistrat et j'ai dit, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Et je confie la surveillance des magasins à Shemlemia, le sacrificateur, à Tzadok, les scribes, et à Pédaïa, l'un des Lévites, et à côté d'eux, à Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Et le verset 14 dit comme ça, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et ne fasse pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. » Donc, vous voyez, il finit avec cette prière, encore que nous connaissons, typique à Néhémie, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. » Donc, dans cette première section, ces dernières parties du livre, on voit que c'est autobiographique à partir du verset 6, Néhémie s'exprime à la première personne. Donc, les premiers trois versets de ce chapitre qu'on vient de lire servent d'introduction. Et quand il dit « dans ce temps », ne fait pas référence vraiment à la fin du chapitre 12, mais au moment que Néhémie revient à Jérusalem pour être de nouveau le gouverneur, comme indiqué dans le verset 4 à 7 qu'on vient de lire. Donc, la section de la loi, le livre de Moïse que le peuple est en train de lire, c'est Deutéronome 23 à 3 à 5, là où il dit que les Ammonites et les Moabites avaient résisté à la marche d'Israël, si vous connaissez l'histoire, là, en Canaan. Et les Moabites avaient acheté Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple. Mais Dieu avait changé la tentative de la malédiction en bénédiction, comme il a mentionné. Toute cette histoire-là, on peut la trouver, et je sais que vous connaissez bien cette histoire, en Nombre, chapitre 2, 22 à 25. Par conséquent, de ce qui a été lu là, et les Ammonites et les Moabites ne devaient prendre part, aucune part au culte dans le temple. Il est intéressant de noter qu'une fois encore, la parole de Dieu a un effet sur le peuple. Je ne sais pas de quelle façon, peut-être de façon orale, était lue cette partie de la parole, mais le peuple a réagi à ce commandement de Dieu. On voit plusieurs fois que le peuple réagit à cette lecture dans le chapitre 8, aussi dans le chapitre 9. Donc, à partir du verset 4, Néhémie nous présente deux grands manquements en ce qui concerne le temple. Premièrement, Éliashib. Et étonnamment, Éliashib, ce sacrificateur, quand on a lu le chapitre 10, il n'est pas là, il n'est pas mentionné dans les gens qui s'engagent à obéir. Je ne sais pas si peut-être il était déjà pas d'accord ou il s'est faufilé quelque part, mais quand même, il était un sacrificateur, mais on ne voit pas qu'il est nommé dans le chapitre 10. Donc, le souverain sacrificateur en Judée avait disposé d'une grande chambre. On le voit qu'il a disposé d'une grande chambre dans le temple pour Tobia. Éliashib était parent de Tobia, comme on vient de le lire. Et c'est qui c'est Tobia, vous vous rappelez? C'est l'ennemi qui s'était opposé à la reconstruction des murailles à plusieurs reprises, dans chapitre 2, chapitre 4, chapitre 6 aussi. Il s'est moqué de Néhémie et les gens qui étaient en train de construire. Et c'est à ce Tobia qu'Éliashib lui donne un espace dans le temple, si on peut dire, un appartement. Il aurait pu donner des terres, je ne sais pas, autour du temple, à Jérusalem, peut-être. Mais non, il choisit vraiment de lui donner vraiment une chambre dans le parvis du temple. Donc, en l'absence de Néhémie, Tobia l'Ammonite avait aménagé dans la maison de Dieu. Donc, la pièce qui occupait avait été, pour les magasins du temple, une pièce auxiliaire destinée à recevoir les offrandes. Donc, il va avoir quand même une répercussion, il va avoir des conséquences à ce que Eliashib avait fait. Par contre, Eliashib avait reçu des avertissements de la part du prophète Malachi, parce que le prophète Malachi, quand nous lisons dans le dernier livre de l'Ancien Testament, ce Malachi est contemporain à l'époque de Néhémie. Donc, Dieu utilise ce Malachi pour avertir le peuple, et sûrement pour avertir ce Eliashib. Et donc, il prêcha contre ces pratiques. On voit dans Malachi 2, 1 à 9, mais on va juste lire le verset 9. « Et moi, je vous livrerai au dédain, à l'abaissement devant tout le peuple, dit le Seigneur, parce que vous ne gardez point mes voies et que vous faites des considérations des personnes dans l'application de la loi. » Donc, vous voyez, Eliashib était averti déjà par ce prophète Malachi, mais il ne tient pas compte de ces avertissements. Deuxièmement, le fait d'avoir toléré la présence de Tobia dans le temple a eu des conséquences sur le peuple. Quel genre de conséquences? Comme les entrepôts avaient été transformés en appartements privés pour ce Tobia, le peuple ne versait plus d'argent pour l'entretien du temple. Et les Lévites sont obligés à partir, à laisser leur travail, parce qu'il fallait qu'ils vivent de quelque chose. Donc, ils sont obligés à partir, peut-être dans leur ferme, afin de faire vivre leur famille. Donc, sans enseignement de la parole de Dieu, sans un enseignement spirituel, le peuple se relâcha dans la pratique de la justice. C'est donc des conséquences graves pour le peuple. Voici les réformes. Et face à cette problématique au niveau du temple, voici les réformes de Néhémie. Il pénétra, comme on vient de lire, dans le temple et jeta hors de la chambre les mobiliers de Tobia. On voit que Eliashib ne s'y oppose pas. Donc, il rentre dans le temple, il jette dehors tout ce qui est dans les chambres de Tobia. Il donna ensuite des ordres pour que les lieux soient purifiés et retournent à leur premier état, comme il l'avait laissé dans le chapitre 12. Mais, frères et sœurs, tout ceci demande du courage de la part de Néhémie, un homme dont les convictions étaient fermes, ancrées, fondées dans les Écritures. Donc, et comme on le voit, Eliashib, il ne fait rien pour s'opposer à Néhémie. Par contre, le peuple n'avait plus confiance. Il semble il ne s'occupait plus de ses propres intérêts, le peuple. Donc, il avait délaissé. La maison de l'Éternel était abandonnée, était délaissée. Et Malachi encore exhorte le peuple à donner leur dîme, un passage que nous connaissons très bien l'Écriture en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, dans Malachi 3, 7 à 12. C'est là que ce prophète est aussi. Encore, il exhorte le peuple à continuer avec cet ordre de la loi. Mais malheureusement, cela ne se fait pas. Mais sous la ferme conduite de Néhémie, les sacrificateurs lévites reprirent leurs premières fonctions. Donc, Eliashib est rejeté. Et il fut remplacé par des hommes dignes de confiance, comme on vient de lire, fidèles, des hommes fidèles, choisis au sein des différents groupes, comme on l'a vu dans le verset 13, et qui avaient pour mission de faire des distributions équitables pour leurs frères. Une caractéristique de Néhémie, et vraiment, je pense que vous le voyez depuis le début de cette étude-là, du livre de Néhémie, c'est son zèle pour l'obéissance de la parole de Dieu. Et cela, on ne peut pas éviter ça, ça nous fait penser à notre Seigneur et Jésus, quand il purifia le temple. Nous lisons dans Jean, dans l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 12, 13 à 17, il dit que la Pâque, je pense que c'est chapitre 2, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, et il trouva établi dans le temple, un peu semblable à cette dans cette fois-ci là que Jésus rentre au temple, une situation semblable. Il dit, il était établi dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et l'échangeur. Il fit un fouet des cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des chargeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs des pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvint qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Donc on peut voir une attitude semblable en ce qui concerne Néhémie aussi. En ce qui concerne nous, la maison de Dieu, l'Église, le temple saint du Seigneur, comme l'apôtre Paul le mentionne, nous sommes le temple, nous sommes l'Église. Nous sommes aussi en danger, frères et sœurs, de tomber comme le peuple dans les temps de Néhémie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le même sens que Néhémie, fit nommer des anciens dans les églises pour prendre soin du troupeau. On le voit ça dans Actes des Apôtres à maintes reprises, que des anciens sont établis dans les églises pour surveiller, pour peser les troupeaux de Dieu. Malgré cela, à travers l'histoire, nous sommes témoins, les églises ont laissé entrer des mauvais enseignements, des mauvaises philosophies, et même à plusieurs reprises aussi, et ça a commencé même par les dirigeants. Et nous voyons dans l'Apocalypse, et l'avertissement de notre Seigneur qui fait à l'Église de Pergame, quand on lit dans le chapitre 2, versets 14 à 15, il dit, tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Donc encore cet avertissement dans le livre d'Apocalypse qui ressemble un peu à ces fautes-là que le peuple d'Israël est en train de commettre. Donc la parole de Dieu nous dit aussi que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens chapitre 6, quand il dit « Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. » Donc c'est un peu la même action que Néhémie a fait, la même réaction et cette réforme-là en ce qui concerne le désordre qu'il y a dans le temple. N'ouvrons pas la porte à des mauvaises influences. Soyons zélés pour des œuvres bonnes, comme la parole de Dieu nous exhorte, et conforme à la volonté de Dieu. C'était la prière, en réalité, de Néhémie dans sa première section. Quand il finit dans le verset 14, il dit, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et ne fasse pas des actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu. Souviens-toi de moi. » Finit cette première section. Maintenant, je vous invite à lire la deuxième section du chapitre 13, du verset 15 au verset 22. Donc, nous lisons dans le verset 15 jusqu'au verset 22. Donc, c'est en même temps, c'est vraiment ces trois aspects qu'on va voir sont nommés à peu près, sont arrivés à peu près à la même époque. À cette époque, il dit, j'ai vu en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, les charger sur des ânes, des mêmes que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux. Et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient le jour du sabbat, aux Judéens et à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'on agit vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. » Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Puis de quelles portes de Jérusalem furent dans l'ombre avant le sabbat? J'ai dit de fermer les battants et j'ai dit de ne les ouvrir qu'après le sabbat. J'ai placé quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai les mains sur vous. » De ce moment, ils ne virent plus pendant le sabbat. J'ai dit aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat et pour cela aussi, « Souviens-toi, mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. » Donc, dans cette deuxième section du chapitre 13, l'observation du sabbat, on parle de cette profanation du jour du sabbat. Donc, cette observation du sabbat a toujours été une pierre d'achoppement pour le libre-échange entre Juifs et les autres nations, les autres voisins. Et donc, la tentation était grande. Et du commerce avec les nations voisines et qui étaient présentées. Et le respect du sabbat comme le jour du Seigneur était un signe particulier de spiritualité, mais était en train d'être profané dans ces temps-là. Donc la façon dont Néhémie fait face à cette situation est une nouvelle preuve de son courage, du courage de Néhémie. Il aborda le chef de la ville, il dit, et qui avait plus quiconque un intérêt pour l'économie de la province, et leur fit des reproches, comme on lit. « Que signifie cette mauvaise action ?» il dit. « N'est-ce pas ainsi que vos pères ont agi ?» Et en leur parlant de cette manière, Néhémie leur expliqua la raison de ces réprimandes et les plaça devant le fait qu'ils n'avaient pas assumé leurs responsabilités, donc qu'ils n'avaient pas vraiment respecté le sabbat. Donc, les chefs restèrent indifférents. On voit que vraiment les chefs restent indifférents. Ils n'avaient pas l'air de vouloir faire quoi que ce soit. Donc, Néhémie intervient et ordonna de fermer les portes. Que toutes les portes soient fermées avant le sabbat et donna des instructions aux serviteurs aussi. Donc, on dirait un couvre-feu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, je pense que vous connaissez très bien. Mais il dit de fermer les portes. Il n'est pas laissé passer aucune marchandise le jour du sabbat. Il menaça même les marchands. Il les menaça de l'emprisonnement et s'ils venaient à recommencer. Finalement, Néhémie demanda aux Lévites de se consacrer pour faire respecter cette fonction qui est sacrée. Il leur fallait jouer le rôle, ces Lévites-là, des portiers, et d'empêcher quiconque, que ce soit des Juifs ou des Tyriens, qui étaient des gens qui étaient très habitués au commerce, là, et de faire commerce pendant le sabbat. Donc, dans l'ancien Israël, c'était un jour de la semaine, et était consacré à Dieu, était mis à part comme un jour saint. Le travail était interdit ce jour-là. Le respect du sabbat était un signe de l'alliance qu'avait fait Dieu avec son peuple. Pour nous, le sabbat représente le repos spirituel dans lequel nous pouvons entrer lorsque nous cessons tout effort pour parvenir à la sainteté, au repos de Dieu qui nous donne en Jésus-Christ, comme dit Hébreux 4, 3. Pour nous, tolérer les mals, en réalité, entraîne un relâchement spirituel qui ouvre la porte à l'indifférence. Et nous devenons insensibles aux choses spirituelles et nous négligeons l'engagement avec notre Dieu, comme ce qui est arrivé avec ce peuple-là. Un exemple clair, c'est quand Jésus parle à l'église d'Éphèse qui avait abandonné son premier amour, dans le chapitre 2, verset 4. Mais ce n'est pas le cas pour Néhémie. Il agit courageusement face à cette situation difficile. D'ailleurs, il mentionne à la fin de cette section dans sa prière, il dit « Pour cela aussi, souviens-toi, mon Dieu. » Et il dit, il rajoute « Et protège-moi selon ta grande bienveillance. » Il avait besoin de la protection de Dieu. Il était courageux pour affronter ces grands de la ville qui peut-être avaient cette chose de pratique pour s'enrichir. Donc, il demande l'aide de Dieu pour qu'il puisse le protéger, sa bienveillance. Donc, on voit le deuxième conflit qu'il y avait dans le peuple de Dieu en ce qui concerne le jour du sabbat. Donc, je vous invite maintenant à lire la troisième section du chapitre du verset 23 au verset 31, donc, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre 13. Encore là, il commence par la même expression, Néhémie. « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites, la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, et ne savaient pas parler le judéen. Ils ne connaissaient pas que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches, je les maudis. J'ai en frappé quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles et leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles, ni vos fils, ni pour vous. » N'est-ce pas? C'est là qu'a péché Salomon, roi d'Israël. Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Yoïada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de qui? De Sambala, l'Horonite, et je le chassais loin de moi. « Souviens-toi, oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites. Je l'ai purifié de tout étranger et j'ai remis en vigueur que c'est ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait l'oblation des voies aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. » C'est comme ça qu'il finit le chapitre 13, et c'est comme ça qu'il finit aussi le livre de Néhémie. Donc, encore une autre situation difficile, c'est le mariage qu'on appelle le mariage mixte, qui était interdit. Donc, les dernières réformes que fit Néhémie concernent ce mariage mixte. Néhémie s'aperçut que les Juifs avaient fait des mariages avec des femmes asdoniennes, ammonites et moabites, comme on vient de le lire. Donc, les foyers étaient corrompus. Et les mères élevaient leurs enfants selon leurs pratiques, sûrement, et leurs pratiques païennes. Et l'ignorance régnait dans le domaine spirituel aussi, parce que, imaginez-vous, ces gens-là ne pouvaient plus même parler la langue, les enfants ne pouvaient plus même parler la langue du peuple hébreu. Donc, si ça avait continué, comment on aurait pu enseigner ces enfants-là la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu? Et donc, on voit que Néhémie intervient pour corriger cette situation et s'adresser à ceux qui avaient épousé des étrangères, les réprimanda. Les maudits, il dit, les frappa quelques-uns, leur arracha les cheveux. Il les fit prêter serment au nom de Dieu en disant, « Vous n'aurez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. » Il choisit comme l'exemple l'homme le plus sage de tous les temps, Salomon, et dans sa question, on peut aussi comprendre, il dit, « Comptez-vous vous en sortir mieux peut-être que Salomon ?» Donc, les conséquences étaient graves aussi en ce qui concerne le peuple. Et Néhémie est obligé à corriger encore ces erreurs-là. Je sais que ça semble être très strict, très dur de la part de Néhémie. Rappelons-nous que Néhémie était le gouverneur de Judée et était le roi Artaxerxès qu'il avait nommé. Donc, ce gouverneur avait des pouvoirs aussi sur les gens et des fois, les réprimandes étaient même physiques, là. Et donc, on voit que quand même était très fort comme réprimande. Et qui sait, il aurait pu être pire, là, parce qu'on voit les avertissements. Si vous lisez le prophète Malachie, on voit que les avertissements sont forts en ce qui concerne tous les manquements. Et même, il aurait pu recevoir ces gens-là en châtiment de Dieu. Mais heureusement, Néhémie était là pour intervenir et pour corriger ces choses-là qui étaient en train d'arriver. En réalité, c'est que l'apôtre Paul mentionne dans 2 Corinthiens 6, 14 à 15, pour nous, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Ou on pourrait traduire aussi, ne vous mettez pas avec les incroyants un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Car quelle association a-t-il entre la justice et l'iniquité, dit l'apôtre Paul, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Je pense que cette exhortation de l'apôtre Paul est semblable à celle de Néhémie en ce qui concerne le mariage. Là. Et on pourrait l'appliquer aussi pour le mariage, cette exhortation de l'apôtre Paul. Et Néhémie, en exécutant ces réformes-là, s'aperçut qu'il devait affronter la famille du souverain sacrificateur, comme on a lu dans le dernier verset, à partir du verset 28, et Eliashib. En effet, en son absence, le petit-fils d'Eliashib avait épousé la fille de Sambala. Qui était ce Sambala? C'était aussi un des ennemis de Néhémie, et au début aussi, avec Tobia qui se moquait et qu'il... Il s'opposait à la reconstruction de la muraille. Et donc, le mariage des prêtres, des sacrificateurs, était soumis à des règles spéciales, surtout en ce qui concerne les prêtres appelés et des souverains sacrificateurs. Donc, on peut voir ça dans Lévitique, chapitre 21, dans Deutéronome aussi, chapitre 23. Et donc, on voit que Néhémie blâma ce transgresseur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le chassa loin de lui, il dit. Dans le dernier verset du chapitre 13, nous résume l'œuvre de Néhémie lors de sa seconde mission, dans son second mandat comme gouverneur, remettre de l'ordre dans la vie religieuse des Juifs. Et le texte se termine aussi avec une prière des supplications adressée à Dieu. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Où Néhémie place en Dieu seul sa confiance. Vous voyez, à trois fois, Néhémie place en Dieu seul sa confiance pour qu'il puisse l'aider à pouvoir corriger ces anomalies, cette irrégularité, ces manquements en ce qui concerne le temple, le jour, le sabbat aussi, et même le mariage. Donc, c'est comme ça qu'il finit ce livre de Néhémie. Et c'est comme ça qu'on conclut aussi notre étude de ces trois livres, Esdras, Néhémie et Esther. Et nous avons beaucoup, frères et sœurs, à apprendre et à méditer dans le livre de Néhémie. Sur la puissance et de la fidélité du Seigneur, on voit que du début, Dieu était avec lui. Et pour l'appuyer en ce qu'il avait dans son cœur de rétablir et rebâtir les murailles. Sur le caractère spirituel aussi, exemplaire de Néhémie, on voit que Néhémie, c'est un homme de prière. On voit qu'il prie constamment. Je pense que sa vie, c'est une vie de prière. Et on voit aussi l'engagement spirituel aussi de Néhémie. On voit son courage et face à l'opposition de la construction de l'œuvre de Dieu. Et comment vaincre l'ennemi selon ce que la parole de Dieu dit. Et on peut voir aussi un exemple d'ennemi en ce qui concerne aussi la repentance. Et on peut voir aussi sur l'ardeur du travail et la persévérance. Je pense qu'on peut voir plusieurs exemples avec Néhémie, quelqu'un qui encourageait aussi le peuple, quelqu'un qui dirigeait le peuple selon la volonté de Dieu, quelqu'un qui priait à Dieu pour ses frères, qu'il était en avant pour défendre les intérêts de son peuple, et dont on voit vraiment un serviteur de Dieu, un bon exemple. Et ce livre de Néhémie, frères et sœurs, ferme l'histoire du peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, avant l'arrivée du Messie promis. Donc, Malachie fut un des derniers prophètes, parce qu'après Esdras, Néhémie, Esther, puis à la fin de l'Ancien Testament, on finit par l'étude des petits prophètes, comme on dit, mais vraiment l'histoire d'Israël, ça finit vraiment où Néhémie est rendu à peu près 400 ans avant l'arrivée du Messie. Et ces derniers chapitres reflètent la réalité. Le danger qui cause l'influence de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, le relâchement spirituel aussi, le découragement, l'importance d'un engagement sérieux de la part des dirigeants. Toutes ces réformes ont servi d'exemple au peuple de Dieu comme avertissement avant l'arrivée du Messie. Des fois, on dit, mais ça finit très difficilement ce livre d'ennemis avec une note un peu amère, mais je ne crois pas. Et je pense que c'est encourageant de savoir que Dieu a été fidèle avec son peuple. Il a suscité ce serviteur d'ennemis, il a suscité d'autres par après, qu'on ne sait pas. Mais ce peuple-là est allé jusqu'à l'arrivée du Messie. Et toutes ces histoires-là, tous ces encouragements-là, toutes ces exhortations-là ont servi à ce peuple comme avertissement. On peut faire un parallèle aussi avec l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse que j'ai cité tantôt. Des fois, on pense que l'Apocalypse est un livre qui nous décourage à pouvoir le lire parce qu'il y a beaucoup de jugements. C'est vrai, mais vous avez vu aussi, ça nous parle d'une réalité quand on voit les lettres envoyées aux églises, les avertissements et l'espoir aussi de ce peuple savoir qu'un jour on va rencontrer notre Sauveur, l'agneau de Dieu, puis on va vivre éternellement avec lui. Ce peuple aussi avait cet espoir, cette attente messianique, si on peut dire, eschatologique, en ce qui concerne le Messie. Puis, il attendait vraiment l'arrivée de ce Messie. Puis, il ne faut pas se décourager, ces réformes-là ont servi à ce peuple-là. Et puis, on voit les résultats. Et quand Jésus arrive, il appelle à ses disciples, et puis eux, ils répondent oui à cet appel-là. On voit des hommes pieux qui sortent ici et là, et que la Bible nous révèle, comme Siméon, qui attendait l'arrivée du Messie, ou Anne, qui dit qu'elle devient veuve très jeune, et il consacra son service au temple. Ces gens pieux qui attendaient et l'arrivée du Messie. Et j'imagine qu'ils ont entendu l'histoire de ces Néhémie, ils ont pris l'exemple sur sa vie. Donc les paroles de Néhémie ont eu un impact favorable pour le peuple, un encouragement à faire la volonté de Dieu. Il dit, souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, il n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et ses ordonnances. Pour nous aussi, l'apôtre Paul mentionne dans 1 Corinthiens, 10-11, en parlant de l'Ancien Testament, que tous ces événements, l'apôtre Paul dit, sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin, dit l'apôtre Paul. Ou aussi dans Romains, chapitre 15, verset 4, il dit aussi, « Or, tout ce qui a été écrit à l'avance, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, les histoires, même incluant le livre de Néhémie, tout ce qui est écrit à l'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, la consolation, la patience qui nous donne les Écritures, nous possédions l'espérance. N'est-ce pas merveilleux cette parole de Dieu et toutes ces histoires-là qui complètent jusqu'à l'Apocalypse cette grande histoire du salut pour l'humanité. Donc, en ce début de l'année 2022, frères et sœurs, dans ce début de l'année 2022, tournons nos regards envers notre Dieu. Tournons nos regards à Dieu. Et prenons des fois, on est habitué à prendre des résolutions. Et des fois, on lâche la résolution quelques jours après seulement. Mais prions à Dieu qui nous guide, que nous puissions le mettre en première place dans nos vies. Et donc, je vais finir ce message avec Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, 1 à 2. Chapitre 11 nous parle de tous les exemples des gens qui ont vécu avant et tous les gens de la foi qu'on lit dans le chapitre 11. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence ce chapitre 12 avec ces mots. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, je pense que Néhémie est inclus là aussi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Amen.